Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique sacrée. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. Et quelle merveille d'entre les merveilles que le répertoire de Noël. J'espère que vous allez bien, que vous vous passez de belles fêtes de fin d'année et surtout que vous êtes bien entouré aussi par la musique, parce que qui dit Noël dit répertoire absolument fécond. C'est le répertoire le plus joyeux, le plus dansant, le plus populaire, le plus merveilleux que nous pouvons connaître et fréquenter. Nous l'attendons depuis des semaines. Voilà chose faite, c'est Noël. Et je voulais partager avec vous quelques petites pépites que j'ai glanées ici et là. Peut-être que vous connaissez, et en tout cas que je voulais vous partager pour réchauffer le cœur de votre maison, le cœur de votre voiture, le cœur de votre foyer, partout où vous pouvez diffuser cette bonne nouvelle et cette joie que contient le répertoire extraordinaire de Noël. Alors je me suis posé la question, parce qu'il est vrai que quand on parle de Noël, vous vous doutez bien que le répertoire est absolument gigantesque. Et alors je me suis dit que j'allais faire, pour commencer, quelque chose de populaire, de presque simple. Et pourquoi pas, après tout, puisque quand on parle de Noël, on parle d'un nouveau-né qui est né et qui est venu au monde dans une crèche, dans une mangeoire. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être commencer par le plus simple et le plus populaire, parce que c'est avant tout cela, Noël, une fête populaire qui parle à tous. Il ne faut pas oublier que le Christ, le Sauveur, s'est d'abord révélé aux bergers. Et alors, ce que je me suis dit, c'est que nous allions commencer par le plus simple. Le plus simple, d'ailleurs, ça ne veut pas dire le moins beau. Oh combien non! On va commencer avec le Douce Nuit. Alors là, cette fois-ci, on va l'entendre en anglais, Silent Night. Pourquoi est-ce que je commence à partir en Angleterre? Tout simplement parce que dans l'imaginaire collectif, notamment des musiciens, quand on pense au répertoire de Noël, il y a forcément les chœurs des cathédrales anglaises qui chantent cela de façon ininterrompue depuis des années, depuis des décennies, voire des siècles. Les carols, comme il est dit là-bas, ces Noëls si extraordinaires qui font rayonner toute cette musique anglaise jusqu'ici naturellement. Ici, ça sera la cathédrale de Winchester qui va nous chanter ce Silent Night, qui est assez magique, je trouve, parce que en dehors de l'aspect extrêmement simple du chant que nous connaissons tous, il y a le choix d'une harmonisation un petit peu plus audacieuse, un petit peu plus contemporaine. Il s'agit ici d'un compositeur qui s'appelle Lumsden, qui a choisi avec ses couleurs. Vous savez que j'aime beaucoup insister sur l'harmonie. L'harmonie, c'est la couleur des sons, c'est la structure musicale qui fait que, en fait, on ne va jamais entendre deux fois la même chose. C'est très fréquent dans la façon de faire des Anglais, avec notamment ces systèmes de contre-chants qui viennent s'ajouter, se superposer au chant principal. Ici, bien sûr, ça ne va pas manquer, vous allez l'entendre, c'est proprement magique, stellaire même, comme si on essayait de s'élever vers le ciel et de regarder vers cette nuit si d'abord sombre, parce que c'est ça le début de ce chant. Il y a cette espèce de côté très passif, très attentiste finalement, et on se dit qu'est-ce qui va se passer, et presque comme si on ne savait pas ce qui se passait. Et c'est ça le cœur de la nuit de Noël. On va y revenir d'ailleurs avec le deuxième morceau, c'est-à-dire qu'au début, eh bien, il n'y a pas les grands fracas de la joie qui sont là. Nous sommes tout début dans une nuit sombre et en même temps tellement douce qui nous annonce la venue du nouveau-né. Et c'est ça que je trouve magique, notamment dans cette version-là, si magnifique, si poétique, donc interprétée avec tant de légèreté. Là, vous reconnaîtrez bien entendu les voix des garçons de la cathédrale de Winchester, qui apporte là aussi un timbre, c'est-à-dire une sonorité proprement unique. Je vous invite donc à découvrir cette version du Silent Night, chantée par les chœurs, les hommes et les enfants de la cathédrale de Winchester. Très belle écoute à vous.
Thank you.
Et c'est à l'unisson que se rejoignent les voix des garçons de la cathédrale de Winchester, une très belle façon de conclure comme si le bébé s'était endormi, comme si finalement on ne voulait pas le réveiller. Quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez magique dans cette interprétation du Silent Night que je trouve si merveilleuse. Évidemment, ça vous a tous parlé, mais vous avez cette façon de chanter, cette façon d'accompagner avec l'harmonie qui est à chaque fois différente, typiquement anglo-saxonne, que je trouve si magique, si extraordinaire, qui fait partie de notre patrimoine commun, mais que nous renouvelons sans cesse et qui donne à chaque fois un petit peu de magie à ce chant, pourtant maintes fois écouté, mais qui le rend à chaque fois si spécial. Maintenant, nous allons partir dans un autre pays, l'Espagne, avec un morceau typique de la nuit de Noël. Il s'agit du chant « Omanium » Mysterium. Le Omanium Mysterium, c'est une pièce grégorienne, initialement, qui était issue des matines de Noël, donc typique de Noël. Et alors là, on est dans quelque chose d'un petit peu différent. Je vous fais un petit peu comme si c'était chronologique, hein, cette numéro de point d'orgue. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé dans la nuit, tout simplement avec ce Silent Night où on se dit qu'effectivement, il ne faut réveiller personne. Et le Omanium Mysterium, là, en revanche, il y a pendant le chant quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que nous étions dans la nuit, et là, vous allez l'entendre, la musique va se déployer et on va comprendre que quelqu'un est né. Et ça se comprend tout à fait par le texte. En voici la traduction. « Ô grand mystère et admirable sacrement, que des animaux voient leur Seigneur nouveau-né couché dans une mangeoire, heureuse Vierge dont le Saint a mérité de porter le Christ Seigneur. Alléluia !» Et vous vous doutez bien que là, avec cette évocation-là, eh bien, ça va finir en fanfare. Le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter aujourd'hui est particulier et cher dans mon cœur. Je l'ai dirigé au concert de la Schola Cantorum de Noël. Il s'agit du Omanium Mysterium de Javier Busto, un compositeur encore vivant, espagnol, qui a composé d'autres petites pépites que je vous invite à découvrir. Et celle-ci, son Omanium Mysterium, ça me semble être sa pièce la plus réussie, la plus magique, à plus d'un titre. Déjà, lorsque l'œuvre commence, ô grand mystère, Omanium Mysterium, vous allez avoir toutes les voix qui s'entrechoquent, comme si effectivement on se retrouvait face à quelque chose de très confus. Et là, on se situe dans cette chronologie que je vous citais un petit peu avant. On est encore dans la nuit de Noël, et surtout on ne sait pas ce qui se passe. Vous allez avoir les consonnes qui s'entrechoquent, et peu à peu les harmonies, on commence tout simplement avec un accord de La majeur, très simple, et peu à peu l'harmonie va se développer, et on va se dire, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose d'assez extraordinaire, les yeux vont pétiller, vous allez vous en rendre compte très vite par vous-même. Et peu à peu, exactement comme on l'a entendu avec le chant que vous venez d'entendre, il y a une refusion des voix, et on termine avec les basses, qui à eux seuls se terminent en Omanium Mysterium. Et peu à peu, le cœur va rentrer dans la danse en reprenant cette phrase « Omanium ». Et vous allez voir que ça va rentrer comme des grandes vagues, comme si on avait besoin de se persuader et de se rassurer au milieu de cette nuit obscure. Non, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Au contraire, il y a matière à se réjouir. Alors c'est une musique qui est assez segmentée, vous allez très vite vous en rendre compte, et à chaque fois comme si on voulait rajouter une couche supplémentaire au bonheur qu'elle est arrivée. Quand va être dit que le Seigneur est véritablement né, que des animaux voient leur Seigneur nouveau-né, « Ut animalia videren dominum natum », vous allez avoir un cœur d'homme, comme si c'était le cœur des bergers qui se réveillaient et qui se rendaient compte véritablement de ce qui se passait devant eux, et vous allez avoir cette espèce d'explosion avec les cœurs d'homme, avec ces fameux harmoniques. Vous savez que quand vous employez les accords parfaits, notamment dans le grave, et parfois on entend des notes qui ne sont pas chantées, et c'est cet aspect stellaire qui est fortement recherché ici, et que je trouve tout à fait magique, avec ce bonheur qui arrive, ces bergers qui s'exclament en se disant « vraiment, il est né », et vous allez voir, la joie est tout à fait contagieuse. On arrive ensuite dans une dernière section, enfin avant-dernière section en vérité, où il est fait mention de la Vierge avec quelque chose de beaucoup plus maternant, beaucoup plus berçant presque, très rassurant, très réconfortant. Et là, effectivement, on essaie de se dire, on essaie de rentrer dans l'intimité de la Sainte Famille et je trouve que c'est admirablement conduit ici dans la musique de Javier Busto. Et on termine naturellement par les Alléluia qui sont ici absolument explosifs. Vous allez entendre avec des La aigus portés par les pupitres aigus, les sopranos et les ténors. D'ailleurs, avec une multiplication des voix, les pupitres qui vont se diviser afin de remplir harmoniquement l'espace de l'église pour pouvoir faire un maximum de bruit comme si c'était les anges qui venaient avec nous se réjouir de la naissance naissance de Jésus. Vous allez entendre, c'est particulièrement brillant, particulièrement frappant. Et là, je me dis, s'il devait y avoir une instrumentation, eh bien, on pourrait se dire, vraiment, ce sont les anges qui soufflent dans les trompettes. C'est tellement contagieux, tellement enivrant qu'on se dit, vraiment, c'est comme si on lisait la Bible et que lors de la naissance, vous savez, il est dit « Gloria in excelsis Deo », vous avez les anges, le concert des anges qui se joignent pour dire vraiment « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » et vous avez cet aspect-là totalement respecté dans cette « Alléluia ». Donc un morceau qui a plusieurs faces, qui commence nimbé de mystère, nimbé de cette nuit si particulière et si magique et qui termine en apothéose avec des « Alléluia » si porteurs d'une joie communicative, les anges battent des mains avec nous en écoutant ce Javier Busto, O Magnum Mysterium. Donc, partagez avec nous cette joie de Noël, elle est si extraordinaire quand elle est bien chantée. Si le début du O Magnum Mysterium de Busto nous laisse dans quelque chose de totalement nocturne, de totalement nébuleux, avec la fin, il n'est plus permis de douter, véritablement quelque chose d'énorme s'est produit, quelque chose de tellement joyeux qu'il doit éclater dans le ciel, c'est la naissance de Jésus, c'est Noël. Le doute n'est plus permis, il faut maintenant pouvoir le distribuer partout dans le monde et que cette joie devienne la plus contagieuse possible. Et c'est la mission que s'est fixé le maître de Leipzig, Jean-Sébastien Bach, dans son oratorio de Noël, un ensemble de 6 cantates, toutes plus formidables les unes que les autres. Les 3 premières sont consacrées à la nuit de Noël et les premiers mots de la première cantate, « Criez, réjouissez-vous, levez-vous, louez les jours », nous donne un très beau programme. Et là, on est dans l'annonce véritable de cette nuit si magique où les premiers au courant, les bergers doivent faire montre de tout leur savoir-faire, les tambours et les fifres avec notamment une instrumentation si magique, si dense. Il ne faut pas oublier que avec plus l'instrumentation est lourde, conséquente, plus la louange porte. Et là, le maître de Leipzig s'est fait plaisir, 3 trompettes, des timbales, 2 flûtes, 2 hautbois, les cordes, violon 1, violon 2, alto, et le continuo bien fourni lui aussi, composé de violoncelles, de violones, d'orgues et de bassons. Vous vous doutez bien qu'avec une telle instrumentation, sans compter les chœurs toujours plus fantastiques, il y a de quoi promulguer et publier cette joie. Ça commence avec un accord de l'orgue, immédiatement suivi par les tambours, les timbales et les fifres presque. Alors bien entendu, ce ne sont pas des fifres, ce sont des flûtes qui ici jouent le rôle de ces fifres, qui sont les premiers personnages finalement à être au courant. Les fifres veulent immédiatement dire que ce sont les bergers qui sont au courant et qui se réjouissent. Ils sont bientôt rejoints par les trompettes et la virtuosité des cordes qui là s'agitent comme si on avait le froufrou des ailes des anges qui ne savent plus où donner de la voix pour faire montre de leur joie qu'ils ont attendu depuis si longtemps. C'est le propre de ces premières mesures musicales de l'oratorio de Noël. On pourrait dire tellement de choses en se concentrant sur cette musique magique, mais on va se réserver sur l'essentiel presque, si j'ose dire, cette joie, cette virtuosité avec ce programme. Il ne faut pas oublier que Bach est luthérien et qu'il y a toujours une dimension fortement de catéchèse. Et quand il dit « Criez, réjouissez-vous », c'est que véritablement, on ne doit pas rester triste dans nos églises. Le but du jeu, c'est d'ouvrir les portes et d'annoncer à tous la naissance. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une transposition de la joie des bergers qui contemplent le Christ et qui ne doivent pas garder seulement la joie dans leur cœur, qui doivent la diffuser partout. Et quel autre motif, quel autre véhicule que la musique pour pouvoir diffuser cette joie? On l'entend très bien avec Jean-Sébastien Bach. Alors c'est quelqu'un qui, sous ses airs un petit peu rigoureux, est capable d'une joie des plus communicatives. Il ne faut pas oublier, Philippe Bossan le disait dans son ouvrage « Vous avez dit baroque », que le naturel du baroque, c'était la séduction. Il y a là quelque chose de tout à fait séduisant. Et d'ailleurs, il le relie avec la danse. Alors, c'était notamment vrai pour la musique baroque française, mais c'est tellement vrai ici aussi. Vous avez quelque chose de si dansant. Je faisais référence aux froufrous des ailes des anges qui sont si extraordinaires, presque désordonnées avec les cordes si virtuoses, mais qui donnent là libre cours au génie musical de Jean-Sébastien Bach. Vous entendez donc les premières mesures de l'oratorio de Noël de Bach sous la direction toujours inspirée de John Eliot Gardiner.
Thank you.
Avouez qu'il y a de quoi se réjouir, quelle musique extraordinaire, et encore, vous n'en avez eu qu'un maigre aperçu, puisqu'il s'agit simplement du premier chœur de la première partie des six cantates de l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach. Imaginez l'immensité de cette fresque musicale destinée au jour le plus saint, le plus sacré pour les catholiques et pour les autres, parce qu'il est vrai qu'on n'oublie pas qu'il y a cette dimension très populaire dans Noël, c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer aujourd'hui en vous faisant écouter ces trois morceaux. N'oubliez pas que d'abord ce furent les bergers qui ont été au courant et qui ont annoncé cette joie à tous. C'était d'abord les plus simples qui ont diffusé ce message et c'est un beau message d'espérance pour le monde aujourd'hui. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très beau temps de Noël, un très beau temps de retrouvailles en musique, en amis, en famille et pouvoir diffuser cette joie de Noël si communicative. Il me reste moi à remercier Mathieu Duboc pour la conception de cet épisode-là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Point d'Orgue. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Et encore joyeuses fêtes.